Vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure du journal régional présenté par Amandine Xeri. Bonjour Amandine.
Bonjour Evan, bonjour tout le monde.
Au sommaire des infos de ce vendredi 5 janvier, suite et fin de notre rétrospective de l'année 2017. C'est un ministre improbable qui était à Forcalquier en juin dernier, l'interview de Nicolas Hulot dans un instant. La région entend soutenir l'économie des départements alpins, reportage à Digne en mai 2017. Le déploiement de la fibre optique avance. Le mois dernier, entreprises et foyers y étaient raccordés à Sisteron. À Digne, il fut question d'accès aux soins et de désertification médicale au cours d'une table ronde en mars. En juin dernier, il rejoignait Gap depuis Briançon à travers les Hautes-Alpes. Des citoyens solidaires ont marché pour le droit d'asile. Le ministre écolo Nicolas Hulot était dans le 04 cet été.
Ministre d'État populaire et pour tout dire inattendu, Nicolas Hulot a passé une journée en juillet en pays de Forcalquier. Son but, soutenir le candidat ministre Christophe Castaner pour les législatives. Sur le terrain, il a visité les jardins extraordinaires de Salagon à Manne, puis le village vert à Forcalquier. Je vous propose le reportage que nous avions consacré à sa visite. Nous évoquerons plusieurs sujets touchant l'environnement, dont celui plutôt épineux du nucléaire.
Nicolas Hulot, un ministre au jardin et au magasin.
Personnalité préférée des Français, Nicolas Hulot était à Manne et Forcalquier hier, chez son collègue Christophe Castaner. Accueilli d'abord au prieuré de Salagon, le ministre de la Transition écologique et solidaire s'est penché sur les richesses végétales du lieu. Sous la conduite du magicien des jardins, François Tessari, il a admiré les plantations et les actions, notamment éducatives, de l'équipe botanique du lieu. Il s'est montré curieux des essences plantées et des systèmes d'arrosage. Inquiet aussi au sujet des semences menacées par les effets de la mondialisation, il a écouté avec intérêt les explications de Christophe Castaner sur le sauvetage in extremis du blé meunier d'Apt par Gérard Guyot et Agribio 04. Aujourd'hui, la céréale est de retour sur nos tables et dans les fournils de boulangers basalpins. Deuxième temps fort de sa visite, le village vert à Forcalquier, où sont regroupés des acteurs économiques liés à l'environnement et à l'alimentation. Des magasins d'Univers Paysans, coopératives de producteurs locaux, ou la Biocoop Jojoba, et des bureaux du CPIE et d'autres occupants des lieux, Nicolas Hulot a apprécié la dynamique collective de la démarche de chacun et de tous. Je vous propose d'écouter l'écolo devenu ministre d'État. Nicolas Hulot, lors d'un point presse, évoque l'inquiétante question des boues rouges en Méditerranée, également la décision connue le matin même de retrait de l'autorisation de production de l'usine de biomasse de Gardanne, sanctionnée pour une consommation excessive et hors norme de bois. Enfin, comment ne pas évoquer avec lui les divergences qui existent au sein de l'exécutif sur la question nucléaire et qu'il devra gérer. Nicolas Hulot.
Sur les boues rouges, chacun a connu mes réserves, mes inquiétudes sur ce sujet-là. Maintenant, je vais avoir une situation plus précise sur ce qui a été déjà fait et sur ce qu'on peut encore faire. Donc, je vais non pas prendre mon temps et m'éterniser, mais je veux avoir des éléments rationnels. Il en vaut de même pour la centrale, puisque je découvre aujourd'hui la décision du tribunal. Il semblerait que le tribunal ait demandé à ce qu'il y ait une évaluation et une expertise nouvelle. Bah, si c'est le cas, ça me paraît frapper au coin du bon sens. Donc on va regarder si effectivement on peut y avoir une expertise indépendante qui nous en dise un peu plus là-dessus. Bon, parce que Au départ, ça part d'une bonne intention, qu'on est parti d'une centrale à charbon et en utilisant de la biomasse. Bon, après, il y a des réserves. Moi, je les découvre, donc on va regarder. Ce qui est terrible, c'est qu'on a tellement tardé sur ces sujets-là, c'est que, comme dans beaucoup de sujets, moi, je vais hériter dans ce domaine-là, comme dans plein de situations tendues, parce qu'on les a laissées parfois pourrir. Bon, voilà. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est que dans tous ces sujets-là, il y a une composante environnementale qui, évidemment, dans mon esprit, est très importante, mais il y a toujours une dimension sociale et humaine. Et mon rôle, c'est de tenir compte de l'ensemble, parce que c'est très facile d'être brutal. Voilà. Alors après, ce qu'on peut regarder, c'est définir un objectif, et que cet objectif, pour le coup, il soit irréversible. Mais après, on tient compte des dimensions sociales, etc. Donc, sur les deux sujets dont vous parlez, alors là, il y a un sujet très particulier, c'est la centrale de Gardanne. Il y a des inquiétudes. Visiblement, le tribunal a donné raison sur le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Ben, voilà, on va en tenir compte. Sur les bouts rouges, on me dit d'un côté qu'il y a déjà eu beaucoup d'efforts de fait, mais de l'autre, et je le crois aussi volontiers, c'est que on peut pas rester en l'état. Donc je vais regarder jusqu'où on peut aller, mais je vais tenir compte aussi des dimensions sociales. Moi, mon rôle, il est évidemment d'être très exigeant sur la notion de précaution sanitaire, environnementale, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas être dans la réaction en permanence sur tous les sujets, c'est de voir ensemble où on peut aller. Mais par contre, une fois qu'on s'est fixé un objectif, on revient pas en arrière. Et donc c'est ce que j'appelle d'ailleurs la transition, ça vaut dans beaucoup de dossiers. La brutalité, du coup, elle bloque. Voilà. Donc on peut décider comme ça de fermer du jour au lendemain une centrale à charbon, mais enfin bon, il y a des gens qui bossent là depuis 20 ans, donc on peut regarder. Si les choses sont prévues et anticipées et accompagnées, je pense qu'on va pouvoir dans beaucoup de domaines aller beaucoup plus loin. Mais à ce stade, d'abord je prends acte des décisions qui ont pu être prises avant que j'arrive. Parfois, situation comme la situation juridique que je découvre aujourd'hui. Donc on va dissocier ce qui est de caractère d'urgence de ce qui est le traitement en profondeur. Mais sur ce dossier des bouts rouges, ma détermination et mes convictions n'ont pas changé. Il y a une chose qui ne va pas changer, c'est mes convictions. Ce qui peut changer quand on est ministre, c'est qu'on est quand même obligé, sauf ne regarder que d'un œil, à prendre en compte tous les points de vue et les conséquences, notamment sociales. Voilà, ça, je ne peux pas les ignorer. D'abord, ce n'est pas dans mon esprit. Donc, ma tâche, elle est comme celle pour mes prédécesseurs. Elle est complexe, pourquoi ? Mais ce n'est pas parce qu'elle est complexe qu'on va ne pas bouger. Mais dans beaucoup de dossiers, quand vous écoutez les points de vue des uns et des autres, chacun, dans leur grille de lecture, sont excessivement honnêtes et objectifs. Mais ils n'ont pas la même grille de lecture. Et ça vaut, je sais pas, pour Notre-Dame-des-Landes, ceux qui sont pour l'aéroport, c'est pas des gens malhonnêtes, et ceux qui sont contre sont pas des gens malhonnêtes. Mais ils ont deux grilles de lecture différentes. Voilà. Et donc, et c'est bien pour ça qu'après, il faut essayer de regarder les choses avec un petit peu plus d'auteur, d'objectivité, et de trouver le compromis le plus raisonnable. Et tous les dossiers, la plupart des dossiers sont comme ça. Et moi, je veux pas tomber dans le simplice, mais c'est pas parce que les choses sont complexes que pour autant, dans mes objectifs, je ne vais pas avoir une certaine détermination.
Ouais. Nicolas Hulon, parlons de la chose nucléaire. On connaît vos convictions. Là. Vous êtes au sein d'un exécutif qui n'est pas franchement sur la même longueur d'onde. Comment vous allez faire ?
Mais qui vous le dit ?
Mon petit doigt.
Donc, je dis pas ça. Je pense qu'il y a, sur ce sujet-là, une ouverture d'esprit qu'il faut que tout le monde ait, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ont évolué. Et ce consensus qu'il y avait notamment sur le nucléaire est plus raisonné et plus prudent. Il y a de toute façon, quel que soit le point de vue qu'on a sur ce sujet-là, et c'est là qu'on peut se retrouver, il y a un chemin commun. Le chemin commun, c'est déjà de rééquilibrer dans la production électrique la part du nucléaire et la part des énergies renouvelables accompagnées de l'efficacité énergétique. Si on fait déjà sur ce chemin, comme la loi sur la transition énergétique nous y conduit, au bout de ce chemin, il y a une patte d'oie. Je veux dire qu'il y a deux possibilités après. Et on va préserver ces deux possibilités parce que dans ce chemin-là, on va peut-être faire la démonstration qu'on peut peut-être aller plus loin. Ou au contraire, la réalité va nous montrer qu'il faut garder un peu plus longtemps. Voilà. Donc moi, le premier chemin, il est très important. Cet objectif de 2025, 50% de production d'électricité à partir du nucléaire et un rééquilibrage. Vous savez, la Chine, elle s'est fixée des objectifs d'énergie renouvelable pour 2020. Elle les a déjà dépassés. Une fois que la machine va être partie, et moi pour démontrer, c'est pas des incantations, c'est pas de dire, voilà, la démonstration que peut-être qu'on peut aller plus loin dans ce domaine-là, elle va se faire mécaniquement. C'est-à-dire que vous allez voir que notamment entre l'efficacité énergétique, la recherche sur le stockage des énergies intermittentes et le modèle économique des énergies renouvelables qui devient de plus en plus rentable, eh bien, moi je préfère faire la démonstration par les faits que par les incantations. Thank you.
La région entend soutenir l'activité économique des Alpes du Sud.
C'est ce qu'est venu signer Pierre Grand-Duffé, qui préside la commission économique du Conseil régional en mai dernier. Une réunion constructive en compagnie des présidents de la CCIT 04 Roland Gomez et Denis Vaugade pour l'UDE 04. Odile Frison interviewait le conseiller régional à cette occasion.
La région entend soutenir les acteurs du développement économique du 04.
Dans le cadre d'un temps fort de l'économie, Roland Gomez, président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale des Alpes-de-Haute-Provence, et le conseiller régional David Géant ont accueilli Pierre Grand-Duffé, conseiller régional et président de la commission économie de la région. Le but, créer une synergie entre les différents acteurs de l'action économique et favoriser le développement des entreprises du territoire. Le matin, une réunion de travail et d'échange sur les besoins du territoire et les dispositions régionaux de développement économique, puis la présentation du déploiement de la fibre optique dans le 04, avec l'intervention du syndicat mixte ouvert PACA-THD, présentation qui s'est achevée en fin de journée par la visite de l'entreprise Xalto. Cette deuxième édition et cette dynamique commune entre la région et les acteurs du territoire permet d'avancer et de voir ce qui a été fait sur les priorités établies lors d'une première réunion en juin 2016. Je vous propose d'écouter Pierre Grand-Duffé au micro d'Odile Frison.
C'est d'abord la rencontre avec la Chambre de commerce qui nous a accueillis ce matin de façon à ce qu'on fasse le suivi de la réunion qu'on avait tenue il y a un an avec eux et qu'on fasse le point de nos actions économiques des uns et des autres.
Alors vous avez parlé tout à l'heure de dispositifs d'aide aux entreprises, que les aides mises en place sont adaptées au territoire.
Oui, alors je voudrais rappeler les principales mesures. La première d'entre elles, le premier outil à disposition des chefs d'entreprise, c'est le guichet unique du financement, Mon Financement, avec un numéro unique, gratuit, un numéro région, 0805-805-145, à destination de tous les chefs d'entreprise. Et quand on dit chef d'entreprise, c'est acteur économique au sens large, donc patron de PME, commerçant, artisan, profession libérale, mais aussi porteur de projet, étudiant en train de se poser la question de savoir comment il peut financer son projet, ou petite entreprise qui veut mettre sur le marché un produit, ou toutes les demandes de financement. Ce numéro est disponible, les conseillers experts de la région sont là pour réceptionner les demandes de financement et accompagner les acteurs économiques jusqu'à la solution. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième, c'est un outil qui est tourné vers l'emploi. C'est la BREA, la Banque Régionale de l'Emploi et de l'Apprentissage, qui a un site région aussi, régionbrea.fr, sur lequel toutes les offres d'emploi de la région sont présentées, ainsi que les offres d'apprentissage, sur lequel la navigation est très facile. Aujourd'hui, il y a 37 000 offres d'emploi et j'invite tous ceux qui sont concernés par le sujet à s'y rendre pour consulter ces offres. Et puis ensuite, comme on l'a exposé ce matin, on a présenté d'abord le Small Business Act, qui est une mesure que la région a mis en œuvre de façon à faciliter l'accès à la commande publique des petites entreprises de la région, en leur permettant de répondre à la commande publique dans des conditions plus faciles, en permettant d'avoir accès à ces marchés, alors que quelquefois elles ont le sentiment d'être trop petites pour pouvoir y répondre. Notre rôle, c'est de faire en sorte de leur permettre d'y avoir accès. Et puis enfin, un grand chantier régional très important, les OIR, les opérations d'intérêt régional, qui sont des opérations de structuration des filières d'excellence et d'aménagement du territoire. Et puis j'ai eu l'occasion de rappeler ce matin que le département 04 était très concerné par les OIR, puisque il y en a deux. D'abord la Smart Mountain, c'est-à-dire la portée de créer plus de services dans les stations de sport d'hiver afin de développer l'attractivité, donc développer le volume d'activité des stations. Et puis Naturalité, qui est une grande OIR qui recouvre plusieurs métiers qui sont très concernés par le 04. Et tout ça se fait aussi dans le cadre du SRDE2I, qui est le schéma régional de développement économique à l'innovation et l'internationalisation, qui est la stratégie économique de la région, la colonne vertébrale de l'économie, qui est écrite par la région. Ma satisfaction aujourd'hui, c'est de voir que toutes les mesures sont mises en application en collaboration avec le monde économique, et surtout que nos outils et nos mesures évoluent en fonction des retours du terrain. Et ce matin, on est venu pour ça aujourd'hui. On est venu pour écouter le retour du monde économique sur les mesures que nous mettons à disposition des chefs d'entreprise.
Quand vous parlez de mouvance de l'économie, l'économie à réinventer sans cesse, le département du 04, à bon nombre d'entreprises continuent d'être aidées.
Oui, bien sûr. Alors d'abord, nous, on a une vision régionale de l'économie. Donc il y a un principe d'égalité de traitement des territoires, des départements. Et donc dans ce cadre-là, chaque territoire doit être traité de la même façon. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, par exemple, du guichet unique, on se rend compte que depuis mai 2016, qui était l'ouverture, il y a eu 2100 appels, 2100 personnes qui ont appelé pour proposer leur dossier. Sur ces 2100, il y en a 1300 qui faisaient l'objet de demandes suffisamment précises pour qu'on les traite. Et sur ces 1300, il y en a 46 qui viennent du 04. Alors, vous me direz 46, c'est pas beaucoup. Moi, je vous répondrais, c'est pas assez, mais c'est quand même pas mal, parce que 46 rapporté à 1300, c'est plus que l'équation du PIB du 0,4 sur le PIB de la région. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions, avec nos outils, susciter plus de création, plus de développement, plus d'investissement pour arriver à notre objectif final, qui est plus d'emplois.
Après la fée électricité, voici celle de la fibre optique.
Le très haut débit à portée des entreprises et foyers, c'est une réalité qui progresse dans les Alpes du Sud. Aux manettes, le SMO PACA et ses partenaires qui assurent la progression territoriale de cette technologie. Et l'attente des clients, bien sûr. Début décembre, c'est la maison de l'entreprise de Sisteron qui pouvait bénéficier de la fibre optique. Chris Alessandri a assisté à l'événement.
Ambiance au beau fixe à la maison de l'entreprise pour l'inauguration du raccordement au très haut débit pour la ville de Sisteron. Attendu par les particuliers bien sûr, mais aussi par les entreprises, un vaste challenge pour lequel Sisteron était défini comme un secteur prioritaire. Pour la cité de Pollarène, l'arrivée de la fibre optique représente le fait d'entrer résolument dans la modernité et le progrès. Le raccordement à la maison de l'entreprise, siège de la société économique mixte, est symbolique. Au total, 5328 prises seront traitées avec 2929 prises livrées dès la première année. Des connexions se trouvant non seulement sur la zone d'activité, mais également au collège, le lycée, au Greta, à l'hôpital et au siège de l'EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Au micro de Chris Alessandri, les réactions de David Géant, conseiller régional, membre du syndicat mixte de très haut débit, René Massette, président du conseil départemental des AHP, et Daniel Spagnou, maire de Sisteron et président de la communauté de communes Sisteron-Bouèche.
Alors, techniquement aujourd'hui, nous procédons au raccordement de la zone d'activité, donc Sisteron-Val de Durance, en fibre optique. Concrètement, ce qui va se passer devant vous à l'instant, c'est que nous allons relier finalement le premier local matériellement en fibre optique. On va souder la fibre optique qui va arriver vers ce local.
Quels vont être les impacts qu'on peut anticiper?
Alors, des impacts qui sont considérables pour nos entreprises, parce que la fibre optique va permettre d'abord de désenclaver géographiquement, j'ai envie de dire, ce territoire qui l'est. De par sa situation. Ça va permettre aussi d'utiliser cette fibre optique pour de nouveaux usages liés au numérique. Je pense au télétravail qui va permettre à ces entreprises de pouvoir avoir des ressources qui se trouvent partout dans le monde. Je pense également à sens inverse à des habitants de Sisteron qui pourraient travailler pour des entreprises qui se trouveraient à Hong Kong, à New York ou à Londres. Donc une création de richesses certaines. Pour les entreprises également une fluidification des process en interne, c'est-à-dire que pour la communication entre salariés, pour la communication avec les parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients, ça va permettre de fiabiliser ces circuits de communication et de les sécuriser. Donc c'est du gain de temps, du gain d'argent et donc on espère des emplois à terme sur la zone.
Alors c'est donc l'aboutissement d'un grand projet. Sur le terrain, comment ça s'est passé? Quels ont été, disons, les cas de figure auxquels vous avez eu à faire face?
Alors d'abord, c'est une concrétisation politique. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, je me suis engagé en politique pour voir justement des actions concrètes. Donc c'est 24 mois de travail, là, pour atteindre aujourd'hui le résultat escompté. Ça a été difficile, d'abord parce que il y a beaucoup de parties prenantes qui travaillent en même temps. Il y a des financeurs, donc l'Europe, l'État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département. Il y a le syndicat mixte ouvert qui est un peu le chef d'orchestre de ce déploiement. Il y a les entreprises qui travaillent sur le terrain. Et on a parfois certaines surprises, comme en ce moment, une difficulté à obtenir de la fibre. La matière première n'est plus disponible sur le marché, il y a des ruptures de stock de fibre optique, donc évidemment quand vous déployez la fibre mais que vous n'avez pas la matière première, c'est un petit peu plus complexe. On voit aussi des difficultés pour la main d'œuvre, les ressources humaines, trouver des personnels qualifiés, comme c'est le cas aujourd'hui, pour souder la fibre optique, c'est pas évident pour les entreprises privées, c'est donc encore moins évident pour les collectivités publiques. Donc beaucoup de difficultés, mais heureusement on a des équipes compétentes qui nous permettent d'arriver au bout, on le voit aujourd'hui.
Vous-même, votre sentiment aujourd'hui?
Très content, à titre personnel. personnel, à titre collectif, de voir que le travail des élus a été récompensé. Le travail également de l'équipe technique du syndicat mixte ouvert, sans laquelle il serait impossible de faire tout ça. Donc François Bigot, le directeur général, Audrey Glorian, qui est souvent sur le terrain, Habib Ferchiche, Pacte, qui est délégataire du marché, qui se charge donc de la commercialisation de cette fibre optique par l'intermédiaire de Philippe Gruget. Donc un travail collectif, un aboutissement aussi collectif et personnel, et donc la satisfaction de voir qu'on peut agir concrètement pour nos territoires au travers de la politique, et je crois qu'en ce moment, c'est important de le rappeler.
René Massette, alors, cette importance, elle est là, elle est réelle, elle est palpable.
Elle est réelle, elle est palpable. C'est la volonté du département d'accompagner donc le SMO au THD, parce qu'on pense que le désenclavement de ce territoire, à un moment, ça a été l'autoroute, ça a été le train, maintenant, c'est la nouvelle technologie, c'est donc la fibre, et je crois qu'on ne peut pas passer à côté de tout ça.
René Massette, quand une entreprise arrive sur le territoire, l'une des premières questions qu'elle va poser, c'est y a-t-il la fibre ? Alors là, nous sommes vraiment au cœur de l'aménagement du territoire.
Nous sommes vraiment au cœur de l'aménagement du territoire et dans des endroits les plus reculés. Je citais tout à l'heure la station du Val d'Alos. Une station, on vous demande maintenant s'il y a le Wi-Fi dans un premier temps, s'il y a la fibre dans un deuxième temps. Sinon, les hôteliers, les opérateurs touristiques ne viennent pas parce qu'il faut qu'ils soient connectés pour la transmission de leurs fichiers, pour le service avec les clients, etc., etc. Et donc, il nous appartient à nous, dans ce département, où l'initiative privée n'est pas toujours au rendez-vous, de faire en sorte que l'initiative publique pallie les défauts de l'entreprise privée.
Monsieur le maire, donc c'est non seulement une volonté, mais l'aménagement du territoire, nous y sommes, donc volonté que vous aviez en cible depuis bien longtemps.
Ah ben oui, là il fallait que le parc d'activité de Citon, qui devient petit à petit le premier parc d'activité du Val de Durance, hein, par l'importance du nombre d'entreprises qui se sont installées et le nombre d'employés, il fallait absolument qu'il soit équipé en fibre optique. D'autant plus que quelqu'un vienne pour nous acheter du terrain, ça s'est produit il y a quelques jours. La personne est venue et m'a dit, est-ce qu'il y a le très haut débit? J'ai dit oui, ça y est. Bon, et il me dit, qu'est-ce qu'il y a au point de vue culturel? C'est très drôle. Et c'est souvent que les chefs d'entreprise posent ces deux questions. Il y a seulement 10 ans, ils nous demandaient, quel est le taux de la taxe professionnelle? C'est la première chose qui est demandée. Voilà, est-ce qu'on trouve de la main d'œuvre? Maintenant, c'est le très haut débit dans tous les domaines et il est tout à fait normal que la ruralité en profite aussi. Même les plus petites communes, elles ont le droit au haut débit. Ça permettra d'organiser le télétravail, d'amener des familles qui viendront habiter dans des petits coins reculés, mais s'il n'y a pas le haut débit, ils ne viendront pas. On entend tous les jours ça.
L'accès aux soins et la désertification médicale au cœur d'un débat à Digne.
Le 20 mars, à l'initiative de la Mutualité française, une table ronde s'est tenue sur ces thèmes pour questionner pouvoir public, professionnel et citoyen en pleine élection présidentielle. Belle initiative mutualiste pour mettre la place de la santé au cœur des débats politiques. Le reportage de Jean-Marc Leca a été diffusé le 23 mars 2017.
Accès aux soins et désertification médicale en question à Digne.
Le centre culturel René Char a accueilli une table ronde réunissant des professionnels de santé, médecins et responsables mutualistes pour aborder ces deux sujets majeurs et préoccupants. Jacques Comte, président de la Mutualité française, a tenu à souligner l'importance que revêt ce type de réunion pour alerter le public sur la protection sociale, l'accès aux soins complémentaires santé, les médicaments, demain le travail, la prévention, la santé et l'environnement, ainsi que le maintien de l'autonomie sont de plus en plus précaires. Une des questions soulevées concerne les candidats à la plus haute marche de notre démocratie qui, dans leur projet sur la santé, doivent trouver une solution pour que les soins soient apportés à tous. La patientèle en milieu rural dans le 04 est vieillissante et les médecins se font de plus en plus rares. Il faut donc pallier à cette défection en attirant des médecins. Par ailleurs, les généralistes qui prennent leur retraite sont rarement remplacés. Il faut donc faire venir la jeune génération. Les carrières médicales doivent aussi être envisagées en zone rurale, d'autant que les nouveaux outils comme le numérique permettent des utilisations précises et efficaces à distance. Cette soirée participative a été animée par l'ancien journaliste Henri Sagnier, par ailleurs élu en Picardie, qui a permis une bonne interactivité. Je vous propose d'écouter Dominique Joseph à la Mutualité française qui évoque les informations et échanges de cette table ronde. Elle répond aux questions de Jean-Marc Leca.
Dominique Joseph, de cette table ronde, qu'en est-il sorti ce soir? Alors si je fais le bilan rapide de cette table ronde, un vrai sujet autour de comment attirer les médecins pour s'installer dans des zones comme les Alpes de Haute-Provence, mais il a signalé comment les attirer par un témoignage d'un médecin lui-même, y compris dans un des arrondissements de Marseille. Donc on sent bien que les questions tournent autour de redonner du sens à l'exercice de la médecine et redonner à des jeunes étudiants en médecine l'envie d'exercer leur profession, ce qui nous interroge tous sur les modalités d'organisation des soins, d'allègement de tâches administratives et de revalorisation de certains actes aussi.
Bientôt les élections présidentielles, les candidats ont-ils trouvé un écho par rapport aux différentes demandes que vous avez ?
Alors malheureusement, les candidats sont encore trop centrés au niveau de nos analyses sur la complémentarité assurance maladie, assurance obligatoire, assurance maladie complémentaire. Dans mes propos, je veux dire qu'ils sont pour arranger le déficit de la sécurité sociale ou l'endiguer, bien on ne laissait qu'à l'assurance maladie obligatoire le gros risque, eh bien les complémentaires pourraient prendre au premier euro, ce qu'on appelle au premier euro. Ou d'autres sont sur vraiment à l'opposé, imaginant ou laissant penser que l'assurance maladie obligatoire pourrait prendre en charge la totalité des dépenses. Et il nous faut trouver une voie entre, je dirais, ces deux propositions. Alors je ne les cite pas, elles sont vraiment à l'opposé. Tous les candidats n'en ont pas fait sur la santé. Donc pour trouver les moyens, vraiment pour nous à la Mutualité Française, c'est de remettre le débat au centre des préoccupations des politiques et surtout de prendre en compte les besoins des participants. Alors, il y a les besoins, nous on s'est occupé là jusqu'à maintenant des besoins, de faire remonter le besoin des citoyens français, mais il me semble, au vu du débat, que ça serait bien d'organiser aussi l'analyse des besoins des professionnels de santé, c'est-à-dire d'aller interroger les jeunes internes sur comment ils verraient l'exercice de leur métier, leur organisation, parce que y compris nous, ce soir, on a beaucoup parlé à leur place. Il y a bien un jeune médecin qui est venu témoigner et qui a apporté une solution qui lui va bien. Mais je crois qu'il faut faire confiance aux acteurs et aller voir. Bien sûr, on va avoir un creux de vague en nombre de médecins, mais allons interroger ceux qui sont en étude aujourd'hui pour aussi donner envie de s'installer plutôt que d'aller s'installer là où il y a déjà des surdensifications de médecins. Parce que ce qui n'a pas été dit ce soir, c'est qu'on a parlé de moyenne, mais on reconnaît en France qu'il y a des zones comme la Côte Basque ou les Alpes-Maritimes et Nice en particulier, où vont s'en concentrer beaucoup de médecins, y compris des jeunes. Et bien sûr, ces jeunes, ils vont être payés, ils vont arriver à des niveaux de revenus au SMIC, parce qu'il y a eu une captation de la patientèle par des médecins un peu plus anciens. Donc, on ne peut pas envisager de mesures coercitives ou incitatives, mais il faut aussi aller expliquer le système de santé à ces jeunes qui sont en étude, ce que l'on ne fait pas. On leur explique les techniques, le fond du dossier, mais la façon dont ils vont exercer et comment est organisé le système de santé, je crains que ça manque dans le cursus de formation de ces jeunes étudiants.
Et au niveau des politiques, vous n'avez pas possibilité de les confronter par rapport aux problèmes que nous rencontrons, nous, dans le milieu rural ?
Alors, on les confronte à leur milieu rural, mais je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas que le milieu rural. Hein. Les zones périphériques, les banlieues, moi je suis en région parisienne, et la question de trouver un médecin généraliste ou un spécialiste, que ça soit en Seine-Saint-Denis, alors je prends l'extrême, mais aussi dans les Hauts-de-Seine ou dans la Seine-et-Marne, qui est et banlieue, grande banlieue parisienne et très rurale, eh bien on retrouve les mêmes questions. Donc c'est vraiment de partir aussi des nouveaux modes d'organisation de l'exercice, faciliter les médecines, les maisons de garde, ça a été dit, les maisons de santé, puis aussi, mais parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est aussi les modalités de rémunération des professionnels. Aujourd'hui, on est encore sur le paiement à l'acte, et pour nous, à la Mutualité Française, il nous semble important de remettre sur le tapis la question de la rémunération, peut-être mixte, acte et forfait, et de prendre en compte aussi les réalités de terrain pour les aider. Donc ça, on va continuer à apporter ça auprès des candidats. Alors on va faire un petit peu par système d'entonnoir, hein. Peut-être qu'on va aussi aller au plus près des derniers candidats. Il y aura aussi les législatives, hein, parce que entre une vision parisienne et une vision locale, on voit bien peut-être qu'à l'Assemblée nationale, où les députés pourraient aussi aussi faire remonter et prendre les questions de santé, non pas au vu de l'Assemblée nationale à Paris, mais faire remonter les besoins territoriaux et les besoins locaux.
La mobilisation pour les migrants a été soutenue toute l'année dans les Hautes-Alpes.
Plusieurs migrants accueillis, notamment à Briançon, où nous leur avons passé la parole plusieurs fois, ont organisé une marche pour le droit d'asile qui a traversé le département des Hautes-Alpes. Soutenue par des bénévoles réclamant plus de dignité de la part de nos responsables politiques et administratifs. Cette opération se voulait festive et conviviale et en même temps que solidaire. Du 22 au 26 juin, un cortège de marcheurs partis de Briançon allait rejoindre Gap et la préfecture des Hautes-Alpes pour une manifestation finale. En préambule de cette opération, Michel Rousseau, de Tous Migrants Briançon, présentait cette marche à notre micro.
Briançon Gap, ils vont marcher pour le droit d'asile.
Le symbole de la marche n'échappera à personne, mais quand on appose le chamboulement politique de ces derniers mois à la situation des migrants briançonnais, on est au-delà du symbole, le nez dans une sombre réalité. Ayant fui leur pays en guerre pour la plupart, quelques réfugiés ont été accueillis à Briançon depuis plusieurs mois dans une ambiance chaleureuse, grâce à la municipalité, des associations locales et de simples citoyens. Mais en attendant la régularisation de leur situation, plusieurs migrants sont sous la menace des règlements européens, notamment le protocole dit de Dublin, et ces Dublinais craignent un renvoi vers le pays d'Europe où ils ont débarqué, principalement l'Italie, porte d'entrée vers l'espace Schengen et saturée d'immigrés involontaires en transit vers d'autres pays. Le droit international permet donc l'expulsion vers les pays d'origine, faisant fi des conflits ou de la misère qui y règne. Depuis 2 semaines, une quinzaine de migrants a entamé une grève de la faim à Briançon, soutenue par une dynamique citoyenne, et ils attendent un geste des pouvoirs publics. Mais du côté de la préfecture de Gap, c'est silence radio. L'objectif de cette marche pour la dignité est clair, solliciter le préfet Philippe Cour et régulariser la situation des migrants accueillis dans le 05. C'est bien sûr le droit d'asile pour tous qui est souhaité. Le départ de la marche a lieu mercredi devant la MJC de Briançon, où est situé le campement précaire des grévistes de la faim. Puis avant d'arriver à Gap, lundi 26 juin, où une manifestation est prévue, le cortège passera par Largentière, Guillestre, Baratier et Chorges. La démarche a été initiée par les migrants eux-mêmes et bien sûr soutenue par leurs amis aux Alpins. Tous souhaitent rassembler les citoyens autour de la cause des migrants pour régler et stabiliser leur situation de manière décente et digne. Je vous propose d'écouter Michel Rousseau pour l'association Tous Migrants Briançon. Il invite les habitants à rejoindre la marche, même ponctuellement, et à participer aux repas et animations sur le parcours tous les soirs. Michel Rousseau, vous représentez l'association Tous Migrants à Briançon et vous préparez une grande marche, une marche qui est initiée par les migrants qui sont actuellement en grève de la faim.
Oui, il y a 15 migrants qui sont en grève de la faim depuis une dizaine de jours maintenant, enfin 10 jours précisément, à leur demande, une demande d'ailleurs qui précédait leur décision d'occuper le parvis de la MJC et de faire une grève de la faim. Donc, à leur initiative, ils nous avaient demandé d'organiser une marche à laquelle ils vont s'associer, de Briançon à Gap pour manifester leur refus des expulsions et leur revendication que nous partageons bien entendu pour un véritable droit d'asile, sachant que il faut bien que nos auditeurs comprennent que toutes ces personnes fuient des pays ravagés par la guerre, la misère et qui sont pas venus ici pour une partie de plaisir. Les conditions dans lesquelles aujourd'hui on refuse de les recevoir, plutôt pas nous mais les citoyens, mais plutôt ceux qui sont censés diriger notre pays, plus largement l'Europe, tout cela érige des barrières de tout niveau, administratives, etc., qui sont de véritables dénis du droit d'asile.
Est-ce qu'on peut craindre pour la santé physique de certaines de ces personnes sur cette marche?
On espère que, évidemment, il est pas envisageable que les personnes poursuivent la grève de la faim tout en marchant, et donc il faudra qu'ils prennent des décisions, et d'ailleurs nous serons ravis qu'ils puissent s'engager dans une action comme la marche, plutôt qu'une grève de la faim où ils mettent directement leur vie en danger, ce qui traduit d'ailleurs leur profond désespoir par rapport à ce qu'ils aient, à ce qu'ils rencontrent ici.
Alors vous allez partir le 22 juin de Briançon et puis au fur et à mesure vous allez descendre jusqu'à Gap où vous allez vous retrouver devant la préfecture après avoir traversé l'Argentière-la-Bessière, Guillestre, Baratier, Chorges. En fait, vous voulez sensibiliser le maximum de Haut-Alpins à cette question.
Oui, c'est le but de cette marche. Hein. C'est une manière positive d'aller à la rencontre de la population pour qu'ils prennent conscience en échangeant directement avec les migrants, pour qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation qui nous concerne d'abord nous, hein, puisque c'est notre droit d'asile, c'est nos droits fondamentaux dont nos ancêtres, pas si nos grands-parents par exemple, ont eu besoin pour se protéger eux-mêmes. Donc c'est un droit fondamental qui est mis en péril aujourd'hui, dont ces migrants-là font les frais. C'est aussi et d'abord notre combat pour le respect des droits fondamentaux. Et c'est que au contact direct des gens, semble-t-il, que peuvent tomber toute une série de préjugés alimentés par une information souvent peu fiable, peu révélatrice de la réalité de ce que fuient les migrants et de leur parcours terrible.
Le 26 juin, votre marche va s'arrêter juste devant la préfecture des Hautes-Alpes, à Gap. Vous espérez une rencontre avec le préfet Philippe Schcour ?
Eh bien, ce sont surtout les migrants qui souhaitent le rencontrer. Là encore, sans doute, pour que Monsieur Courte, le préfet des Hautes-Alpes, soit confronté à des personnes et non pas à des chiffres, des numéros ou je ne sais quoi. C'est leur volonté, mais on la partage, on la comprend parfaitement, car le comportement des autorités, il est totalement inhumain et ne peut s'expliquer que par soit une méconnaissance, soit un mépris des réalités que vivent les migrants, hein, que ce soit par rapport à ceux qu'ils ont fui, que ce soit par rapport à tout le parcours où ils ont été la proie des trafiquants d'êtres humains, mais aussi s'agissant des conditions plus proches qui nous concernent directement, qui sont le résultat des politiques mises en place au niveau européen.
On va rappeler les dates de cette grande marche du 22 juin jusqu'au 26 juin de Briançon à Gap avec tous les soirs aussi une rencontre avec des animations et un repas pris en commun pour inviter les citoyens à parler de cette question et à rencontrer les migrants.
Voilà, c'est ça. Donc on invite à toutes les étapes du parcours la population à se joindre aux marcheurs et aussi à ces temps forts que seront les étapes où des échanges pourront plus facilement s'organiser.
Nous avons quelques brèves, Amandine ?
Effectivement, lundi, retour à l'actualité dans les Alpes du Sud, nous reviendrons sur les vœux du maire de Sisteron. Nous verrons aussi qu'une association aide à être plus zen à Digne. Nous parlerons cinéma à Briançon où l'Eden Studio fête ses 20 ans d'existence. Et enfin, nous recevons Gérald Chéreau, passionné d'écriture et de poésie. Merci à tous et merci Evan pour la régie. Et un bon week-end à tous et prudence en montagne et sur les routes.
Merci Amandine. On se retrouve cet après-midi pour l'agenda des sorties. Je vous souhaite un bon week-end sur Fréquence Mistral. Au revoir.